Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panorama, le podcast du laboratoire de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Dans ce podcast, nous recevons des experts français et allemands pour parler de l'Europe de la mobilité, de la jeunesse et des échanges interculturels. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste et correspondante en Allemagne. Aujourd'hui, nous abordons une question difficile, mais ô combien actuelle, comment parler de la guerre avec des jeunes ? La chercheuse en pédagogie Dimut König et l'historien Laurent Jalabert publient une passionnante étude sur ce sujet pour la série Panorama de l'OFAGE. Ils sont nos invités dans cet épisode. Dimut König et Laurent Jalabert nous expliquent pourquoi les rencontres internationales de jeunes se prêtent particulièrement bien à la tenue d'un dialogue sur le thème de la guerre. Pourquoi ? Eh bien parce que la confrontation des références historiques nationales dans un cadre non scolaire, disent-ils, favorise la prise de conscience des mécanismes qui sont à l'œuvre dans un conflit armé. Dans leur texte et à notre micro, ils expliquent pourquoi il est essentiel de faire naître cette réflexion sur la guerre dans l'esprit des jeunes afin qu'ils apprennent à y réagir convenablement. Bonjour Laurent Jalabert, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Panorama.
Bonjour Cécile Boutelet.
Laurent Jalabert, vous êtes avec nous pour la version française de cet épisode. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialiste des questions d'identité et de mémoire, particulièrement en lien avec le passé militaire. Alors pour commencer, peut-être une question naïve. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de guerre avec les jeunes ? Est-ce qu'on a oublié ce que c'est que la guerre ?
Alors, on peut considérer qu'il y a eu une rupture dans nos sociétés, on va dire depuis post-1968, ce grand boom de la société de consommation qui a pu nous leurrer de toute manière, et notamment la jeunesse, sur ces questions un petit peu d'une guerre lointaine avec une armée qui s'est professionnalisée, qui a encore plus a priori éloigné, je parle notamment pour les Français, mais ce ne sont pas les seuls, la guerre. Or, cette guerre, il faut en parler particulièrement avec des jeunes, parce que c'est une réalité anthropologique. La guerre, que l'on accepte ou pas, ça fait partie intrinsèquement du fonctionnement, malheureusement, de l'humanité. Il faut avoir conscience de cela, non pas pour avoir un esprit chagrin, mais justement pour gérer le flux de l'information auquel ils sont soumis de toute manière, et donc à une réalité à laquelle ils sont confrontés. C'est-à-dire aider à ces jeunes à devenir des citoyens actifs et réfléchis et à limiter un tout petit peu l'impact de ces guerres.
Oui, quel est le risque, en fait, finalement, si on n'en parle pas, si on évite ce sujet ?
Le risque, de toute façon, c'est non pas un désenchantement du monde et de la jeunesse, hein, c'est simplement de mettre du côté, hein, c'est-à-dire une sorte d'exclusion cérébrale, en quelque sorte, de l'information. C'est-à-dire que tout ça, c'est faux, ça ne m'intéresse pas, je mets de côté, et donc de retirer, en quelque sorte, les jeunes de cette citoyenneté active. Et ça, je pense que c'est un vrai danger. L'autre danger, c'est de tomber, évidemment, dans le panneau d'une forme de discours, par exemple nationaliste, ou enfin, peu importe, une forme de propagande quelconque, qui n'est pas nouvelle du tout, et de sombrer dans un gouffre qui alimente, de toute manière, toujours ces conflits. Il faut essayer de montrer qu'en travaillant, et faire comprendre qu'en réfléchissant sur l'information, même si on n'a jamais tous les éléments pour le faire, ça permet justement de prendre de la distance, c'est essentiel, hein, être à même de toujours se dire, là, est-ce que, par exemple, nos représentants politiques ne franchissent pas une ligne rouge ? Parce qu'on sait très bien que dans nos constitutions démocratiques, normalement, par exemple, vous prenez le cas des fonctionnaires, ils sont censés, bien sûr, obéir à l'État, etc., il y a des règles, mais il y a aussi un devoir de dénonciation, de malversation ou un devoir de réserve dans certains cas. Et ça, c'est l'expression même, justement, de cette liberté citoyenne. Au nom de l'intérêt collectif, là, il faut faire quelque chose parce qu'on franchit une ligne rouge.
Alors, vous écrivez que les rencontres internationales de jeunes se prêtent très, très bien à cet exercice de mise à distance. Vous vous appuyez sur une étude que vous avez réalisée avec Dimut König pour l'OFAGE, où vous avez observé des rencontres de jeunes sur le thème de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt de ces rencontres ?
Alors, les rencontres internationales de jeunes, elles sont particulièrement intéressantes parce que on sort les jeunes du carcan national. Alors, ça paraît peu de choses, mais c'est beaucoup, et on les sort de l'école. C'est quelque chose qui est connu de la part des enseignants. À l'école, un élève va vous donner la réponse qu'il pense que vous attendez. C'est souvent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il le pense lui fondamentalement. Dans le cadre de ces rencontres internationales, même si vous, a priori, vous discutez à partir de ce substrat-là, rapidement vous vous rendez compte que l'autre n'a peut-être pas tout à fait le même discours. Et donc, il y a une interaction importante et qui permet, et qui doit permettre justement la libération de la parole, de l'échange. Ça passe par la confrontation, pas nécessairement musclée verbalement. C'est justement une possibilité de dépasser la bonne réponse institutionnellement attendue pour ouvrir le champ à nouveau de la réflexion, de l'analyse. Et ça me semble être une des clés de ces rencontres.
Comment est-ce qu'on accompagne ces discussions? La modération est sans doute la partie la plus sensible de ces rencontres. Qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui endossent ce rôle?
Pour accompagner cette confrontation, en tant qu'animateur et souvent bien sûr adulte, il faut apprendre à désacraliser les choses. C'est-à-dire, si vous avez un jeune qui intervient peut-être de manière un petit peu véhémente, un peu musclée, ça n'a rien de coupé de toute manière, sauf si ça va trop loin évidemment. Mais il faut savoir trouver la mesure et à partir des mots utilisés, amener à par exemple, si vous avez un jeune qui porte un discours très nationaliste, essayez de montrer que c'est son point de vue, que l'on peut y adhérer, et qu'on, admettons, si on venait d'une voisine nation, on pourrait également y adhérer, mais peut-être avec un point de vue un petit peu différent, où vous pouvez montrer qu'il y a des ressorts qui sont semblables, mais justement pour aller vers l'idée que il y a une désacralisation des récits à laquelle on peut aboutir. Parce que le souci, le danger dans toutes ces questions-là, tout ce qui tourne autour des questions de guerre, c'est à partir du moment où on sacralise, où on donne le sentiment de sacraliser, par exemple, les morts de la patrie, si vous prenez cet exemple-là, eh bien à partir de là, ça devient intouchable. Et en fait, c'est un phénomène qui est très lié aux religions, par exemple. Et donc, il y a les mêmes ressorts anthropologiques. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en toucher, aucune remise en cause possible. Et en fait, ça, c'est typiquement le biais qui va mener non pas à une confrontation réfléchie, mais à un affrontement, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, on imagine que ces confrontations peuvent déclencher des émotions assez fortes chez les jeunes. Vous dites qu'il faut développer l'empathie. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières?
L'empathie qui passe par la question de l'identification. Et si c'était moi? Et si c'était ma famille, mon pays, etc., je réagirais comment? Est-ce que ça me permet de comprendre la réaction de l'autre? Et donc, à partir de ce moment-là, souvent, ça peut permettre de faire baisser la pression si il y a lieu, et de construire un discours justement qui ne soit pas fondé sur des revendications et donc un discours qui peut être violent. Ce jeu du miroir, il est essentiel pour amener les uns et les autres à un peu plus d'apaisement et surtout de réflexion. Et après, concrètement, vous pouvez partir de la parole des uns, de représentations liées à des nuages de mots autour d'une même idée. Vous avez, par exemple, si vous avez bien sûr un émetteur, un récepteur d'un discours, vous pouvez demander après des inversions. Ce sont des jeux d'acteurs. Il me semble que ça, c'est possible. Et après, je pense qu'il faut savoir alterner justement des moments où, en gros, on a fait connaissance. On aborde des activités propres à discuter de façon plus approfondie et à ce qu'on appellerait après des pauses. Alors ça peut être des pauses plus sympathiques, entre guillemets des pauses type café, hein, ou ça peut être à nouveau une activité commune, peut-être à partir d'une petite base artistique pour créer quelque chose. Hein. Même par petits groupes comme ça peut permettre justement à nouveau de renforcer les liens, d'aider à prendre de la distance. Quitte à y revenir un petit peu après. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça permet largement de dédramatiser parfois les choses.
Dédramatiser. Pourquoi? Pourquoi c'est important?
C'est-à-dire qu'on montre bien que là, on parle de choses passées et quoi qu'il en soit présentes, mais c'est pas la fin du monde. Ça permet justement de leur dire, voilà, il faut en parler, c'est essentiel, parce que faire l'autruche n'amène à rien. Mais ça permet quand même de se dire, voilà, la vie continue et justement, il faut aller en permanence vers l'avenir, il faut le construire, cet avenir.
Laurent Jalabert, merci beaucoup pour cet entretien.
Oui, à bientôt et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'évoquer ces sujets-là avec vous.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le texte de Laurent Jalabert et d'Imoud König ainsi que la version allemande de ce podcast sur le site de l'OFAGE, www.ofage.org/panorama. Vous y trouverez aussi l'ensemble des épisodes de la série. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle interview.